Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez, merci de votre confiance, profitez-en, nous sommes vendredi et vous le savez, en deuxième partie d'émission, c'est votre libre antenne, c'est l'occasion pour vous tous de commenter l'actualité de votre choix. Ce matin, je vois qu'on nous interpelle sur les tensions entre le Tchad et le Soudan, des réactions sur le général Tiani au Niger, puisque le chef de la junte a officiellement été investi président pour 5 ans renouvelable. On nous appelle du Sénégal pour réagir à cette polémique autour des 7 milliards de dollars de dettes dissimulées par le gouvernement précédent. Je vois également des réactions de Guinée où la justice veut inculper l'opposant Seloud Alain Diallo pour corruption, enrichissement illicite. Les sujets ne manquent pas, la libre antenne vous attend, tout le standard 33 9 693 693 70 et vos commentaires évidemment sur nos réseaux sociaux. Vous nous suivez à la radio et vous nous suivez également en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Mais vous le savez, on commence l'émission, comme tous les jours, avec vos questions à la rédaction, des questions sur la guerre en Ukraine après l'annonce cette semaine par la Maison-Blanche d'un accord avec la Russie pour cesser les hostilités en mer Noire. Bonjour Banham.
Bonjour, hein, bonjour la RFI.
Merci, vous êtes à Lomé au Togo. On vous écoute, quelles sont vos questions?
Papa. Oui, du cessez-le-feu, Moscou demande la levée des sanctions occidentales, mais l'Europe dit qu'il faut les maintenir. Mmh. On entend la réaction de Zelensky à ce sujet, mais est-ce qu'on sait ce qu'en pense la population ukrainienne?
Ah, que pense la population ukrainienne de ces annonces, effectivement? Bonjour Xenia Zornoukleï.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé pour la rédaction ukrainienne de RFI. On va replanter le décor. Moscou, Banham le disait, fixe des préalables au cessez-le-feu en mer Rouge. Vladimir Poutine exige la levée des restrictions occidentales sur le commerce des céréales, sur les engrais russes. Et Vladimir Poutine peut compter sur Donald Trump.
Oui, tout à fait. En fait, Washington envisage d'assouplir les sanctions, notamment pour permettre à la Russie d'exporter plus facilement ses produits agricoles par la mer Noire. Mais cette initiative divise énormément. Les Européens, réunis hier à Paris, ont affiché une position claire et unanime. Le moment n'est pas venu de lever les sanctions contre la Russie. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont tous insisté sur un point. Lever les sanctions maintenant serait prématuré et affaiblirait les efforts diplomatiques en cours. Et la Commission européenne, d'ailleurs, a été très ferme récemment. Pas de levée de sanctions tant que les troupes russes n'auront pas quitté entièrement le territoire ukrainien. Donc, pour l'instant, le message européen est sans ambiguïté.
Alors, que pense la population ukrainienne, justement, des conditions fixées par Moscou? La population est-elle prête, tout de même, à faire des sacrifices pour avoir une paix durable?
En fait, pour les Ukrainiens, la question est assez simple. Personne ne veut la levée de ces sanctions parce que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, si la Russie a d'autres moyens de s'enrichir, de relancer l'économie jusqu'au point d'avoir l'économie forte d'avant-guerre, cela veut dire que demain, la Russie va se réarmer, elle va recommencer l'offensive. Et là, l'Ukraine, peut-être aujourd'hui affaiblie, ne pourra plus résister à tel point. Donc en fait, l'Ukraine veut une paix, mais une paix garantie, avec des vraies garanties, avec beaucoup, beaucoup de confiance dans les forces armées ukrainiennes et l'Europe. Donc, bien sûr, les Ukrainiens sont contre la levée de sanctions sur tous les fronts.
Ouais. Et ce que veulent les Ukrainiens, la population ukrainienne, c'est que les crimes de guerre soient jugés, c'est que le pays soit également reconstruit. Les Ukrainiens attendent des garanties, quoi.
Attendent des garanties de protection, mais en même temps, ils disent que la paix doit être juste. Et le mot juste est très, très, très important pour les Ukrainiens parce que ça veut dire qu'il faut reconstruire reconstruire le pays. Il faut rendre les enfants enlevés, déportés. Il faut rendre les otages, les prisonniers de guerre. Et ça, c'est très important.
Donc, pas question de lever les sanctions sans des garanties de paix.
Non, tout à fait. Et personne en Ukraine ne croit que la Russie est prête pour une paix. Donc, en fait, aujourd'hui, les sanctions, c'est peut-être le seul levier de pression sur la Russie.
Ouais. On parle là de levée totale des sanctions. Est-ce que quand même la population ukrainienne serait prête à accepter une levée partielle des sanctions contre la Russie?
Oui, alors s'il s'agit des sanctions économiques qui permettent à la Russie de se réarmer dans le futur, bien sûr que les Ukrainiens
sont contre. Oui.
Mais si on parle en revanche des sanctions plus institutionnelles ou symboliques, comme par exemple la participation des équipes de foot dans les matchs internationaux, ou par exemple la participation de l'équipe olympique aux Jeux Olympiques prochains, donc là, les Ukrainiens sont plutôt perplexes. La plupart disent « Ok, c'est acceptable, mais le reste, non. »
Bon, on suivra ça. En tout cas, la question de Banham était effectivement très très intéressante. Moi-même, je me la suis posée. Je dis, bon, c'est vrai qu'on entend le président Zelensky, et c'est normal, il est le président ukrainien, mais que pense effectivement la population de ces nombreuses déclarations et propositions de ces derniers jours? Merci en tout cas.
Merci.
Xenia Zornoklei, journaliste spécialisée pour la rédaction ukrainienne de RFI, d'être venue dans ce studio. N'oubliez pas, dans 10 minutes maintenant, votre rendez-vous hebdomadaire. Le vendredi, vous le savez, Jessica Taïeb nous rejoint pour sa chronique Un œil sur les réseaux sociaux et elle nous parlera tout à l'heure d'un sujet qui vous donnera très certainement envie de prendre la parole dans la libre antenne. 8h17, on va parler football. Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service des sports de RFI Football avec des questions sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Abdourahmane, bonjour. Allô Abdourahmane.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour Abdourahmane, vous êtes bien là, bien réveillé?
Oui, je suis là.
Bon, il y a beaucoup de bruit derrière vous, vous êtes à l'Abbé, en Guinée.
Oui,
et vous avez des questions concernant votre équipe nationale.
Oui, bien sûr. Après la défaite de la Guinée contre l'Ouganda, l'espoir d'une qualification au Mondial 2026 s'éloigne de plus en plus. Comment expliquer les difficultés rencontrées par le Sili national?
Bon, la Guinée n'avait pas le droit à l'erreur, hein, Antoine Grenier, et pourtant, elle s'est inclinée 1-0 face à l'Ouganda. Le Sili national qui ne participera donc ni à la prochaine CAN, ni à la prochaine Coupe du Monde de football, on s'attendait quand même à autre chose.
Oui, pour la Coupe du Monde, il faudra un miracle, parce que les Guinéens ne peuvent viser lors des 4 prochaines journées qu'éventuellement une deuxième place, parce que vu la forme de l'Algérie, ça va être très compliqué d'aller chercher cette première place qualificative directement pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est une énorme déception d'imaginer que cette équipe de Guinée ne sera pas au Mondial, parce qu'elle nous avait fait un petit peu rêver lors de CAN de 2024.
Quart de finale.
En arrivant à briser enfin cette malédiction, en éliminant la Guinée équatoriale, en remportant un match à élimination directe. Donc on pensait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et puis le retour sur Terre, il est encore plus violent, parce que pour la qualification pour la CAN 2025, autant un groupe avec la RDC, on s'imaginait que ça serait compliqué, autant là, aller accrocher une deuxième place, voire, étant donné que la Guinée avait quand même battu l'Algérie dans les éliminatoires de Coupe du Monde, éventuellement réussir quelque chose dans un groupe où il y avait le Mozambique, le Botswana, la Somalie, l'Ouganda, on pouvait imaginer que c'était à la portée des Guinéens. En fait, après les JO, la fédération guinéenne a décidé de se séparer de Kaba Diawara, de nommer, après un intérim de Charles Paqui, Michel Dussuyer, le français, avait une mission commando qu'il devait réussir, d'autant plus qu'il connaissait déjà la Guinée, qu'il avait déjà dirigée.
Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, surtout lors de ce rassemblement du mois de mars.
Oui, parce que le sélectionneur a dû composer avec pas mal d'absents, mine de rien, pas des moindres. Ça a été un de ses cailloux dans la chaussure. Moussa Camara, l'habituel titulaire dans les buts, était forfait. Ça aura son importance. Mohamed Bayo, Moriba Kourouma, qui sont des habitués de la sélection et des joueurs qui peuvent faire des différences par moment, n'étaient pas là non plus. Et puis, il y a la méforme de Serou Guirassy. Ça a été vraiment le point noir, parce que le problème de réussite récurrent, il a coûté très cher face à la Somalie. Alors, On est d'accord, le gardien somalien a sorti le match de sa vie, très clairement, mais quand on joue contre le 202e mondial, on doit concrétiser les occasions quand on est la Guinée. 15 tirs cadrés, 0 but, ça fait que les Guinéens ont marqué 4 fois moins que l'Algérie lors de ses éliminatoires.
Mais là, ça fait 3 matchs de suite que le Sili National ne marque pas.
Oui, c'est un vrai problème, parce que quand vous avez des joueurs comme François Camano ou Aguibou Camara, vous avez théoriquement de quoi faire. Et là, l'autre problème, au-delà des attaquants, c'est que contre l'Ouganda, les Guinéens n'ont pas marqué et puis ils se sont inclinés sur une des rares occasions des Cranes avec une erreur du gardien Soumaïla Sylla. Donc c'est là qu'on imagine que le gardien numéro 1 aurait peut-être fait une différence.
Et certains choix de Michel Dussuyer ont également été critiqués.
Oui, c'est changement tardif contre la Somalie par exemple, parce que il s'est dit sans doute que les joueurs sur le terrain allaient enfin réussir à marquer, donc il a persisté dans cette idée jusqu'à quasiment un quart d'heure de la fin où il a fait sortir François Camano et Madi Camara pour faire entrer Morila Issima et Aguibou Camara, mais c'était trop tard, ça n'a pas changé le cours du match. Sa liste aussi avait été également diversement appréciée, notamment la présence d'Algassi Mouba plutôt qu'un Salifou Souma, l'ancien joueur du Havre qui réussit de belles choses en Azerbaïdjan.
En tout cas, ils sont nombreux en Guinée à être déçus. Abdourahmane, vous avez une dernière question, profitez-en. Antoine Grenier est à mes côtés.
En plus de ça, la Guinée ne disputera pas la CAN 2026. Le sélectionneur Michel Dussuyer peut-il rencontrer le même sort que Kaba Diawara qui avait été limogé l'été dernier?
Alors, Dussuyer, bientôt limogé ou pas?
En fait, disons que le constat qu'il a dressé après ces deux matchs, où il a clairement taclé ses joueurs, mais ça reflète une forme, si ce n'est de fébrilité, au moins un petit peu d'impuissance. Il pensait avoir relancé la sélection avec des victoires sur l'Éthiopie, mais ça n'a pas fonctionné. On est sur deux désillusions de suite qui font douter une grande partie du public guinéen. Alors, de là à limoger, il y a un grand pas. Des rumeurs voudraient que la fédération réfléchisse à faire revenir Kaba Diawara, qui était le prédécesseur de Michel Dussuyer sur le banc guinéen, mais à l'heure actuelle, on est plus sur un scénario du maintien en poste du Français, et c'est un dossier très important pour Bouba Sampil, le président de la fédération guinéenne, qui est très contesté.
Vous êtes en Guinée, vous avez envie de réagir évidemment à la piteuse prestation.
Décevante,
voilà, merci pour ce mot. C'est peut-être un peu trop dur avec les Guinéens. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. La Libre Antenne, c'est dans moins de 20 minutes. Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Abdourahmane, bonne journée à la baie. Merci de votre fidélité. Antoine Grenier, à très vite.
À très vite.
Journaliste au service des sports de RFI, 9h22 ici à Paris. Delphin nous rejoint. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Et bienvenue, vous êtes au Bénin, quelles sont vos questions?
Donald Trump veut censurer tous les pays qui achètent du pétrole au Venezuela. Mais j'ai entendu que la Chine avait les moyens de contourner les sanctions. Comment s'y prend-elle? Pourquoi le pétrole vénézuélien intéresse-t-il autant les Chinois?
Ouais, c'est vrai qu'à partir de mercredi prochain, tous les pays qui achèteront du pétrole vénézuélien seront frappés de droits de douane de 25% sur toutes leurs marchandises vendues aux États-Unis. Bonjour Marie-Françoise Renard. Vous êtes professeur d'économie émérite à l'université Clermont-Auvergne. Vous êtes spécialiste de la Chine. Il s'agit, on l'a bien compris, de sanctionner le Venezuela, mais aussi la Chine. La Chine est visée par cette mesure que souhaite prendre à partir de la semaine prochaine le président américain. Faut quand même rappeler aux auditeurs que la Chine est aujourd'hui le principal importateur de pétrole vénézuélien.
Oui, alors la Chine est le principal importateur de pétrole vénézuélien, je crois que c'est à peu près 40% de son pétrole, mais il faut rappeler aussi que le Venezuela n'est que le 12e fournisseur de la Chine, qui achète principalement à la Russie, à l'Arabie Saoudite, à l'Irak, etc., et qui a beaucoup diversifié ses partenaires. Mais il faut rappeler aussi que lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé un blocus au Venezuela, ce qui a eu un impact assez ravageur sur l'économie, l'objectif étant de déstabiliser, voire de mettre dehors le président Maduro. Et à ce moment-là, la Chine, qui subissait déjà les attaques contre l'Iran, enfin attaques entre guillemets contre l'Iran, et les difficultés à acheter son pétrole, la Chine s'était organisée entre guillemets, notamment par l'intermédiaire d'une société de logistique qui s'appelle CCPC, qui est une société chinoise, qui est un acteur central dans l'approvisionnement de pétrole. Et donc cette société Elle a des navires, elle achète des navires qui lui permettent de faire des transferts de pétrole de navire à navire. Elle passe par des sociétés écrans, alors généralement des banques qui sont basées à Hong Kong, mais tout se passe en dehors du système financier américain. Et donc, la majeure partie de ce pétrole vénézuélien, il est importé par des raffineurs chinois indépendants par l'intermédiaire de cette entreprise. Et donc, la Chine a continué à acheter du pétrole au Venezuela et à l'Iran grâce à un système qui est tellement opaque et complexe que finalement, elle a pu continuer à le faire. Oui. Alors, encore une fois, ça n'est pas son principal fournisseur, mais c'est néanmoins un fournisseur avec un système qui, comme souvent avec la Chine, consiste à échanger un achat de dette vénézuélienne contre du pétrole. Donc oui. La Chine prête de l'argent au Venezuela, voilà.
Oui, parce faut dire que le Venezuela doit beaucoup d'argent à la Chine et donc la Chine récupère voilà. Effectivement cet argent via le voilà. pétrole et par ce système pour le moins opaque. Donc ça signifie...
Oui, alors,
allez-y.
Il y avait, dans la deuxième partie de la question, pourquoi ce pétrole intéresse-t-il autant les Chinois, a demandé votre auditeur.
Oui.
Parce que suite au blocus du premier mandat Trump, comme le Venezuela avait beaucoup de difficultés à vendre son pétrole, il a vraiment énormément fait baisser les prix. Donc il y avait une très forte décote sur le pétrole, et donc la Chine, de cette façon-là, achète du pétrole très bon marché, mais ça fait augmenter la dette du Venezuela.
Effectivement. Merci beaucoup pour ces explications claires, précises, concises. Marie-Françoise Renard, spécialiste de la Chine, professeure d'économie émérite à l'université Clermont-Auvergne. Delphin, bonne journée au Bénin et bonne fin de semaine. Non, il n'est plus là. Bon, décidément, on a des problèmes avec les réseaux téléphoniques ce matin. Bonjour Jessica Taïeb.
Bonjour Juan.
Il est 8h26 en temps universel. Dans un quart d'heure, la libre antenne, évidemment. Et peut-être que les auditeurs auront envie de réagir au sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un œil sur les réseaux. Vous avez passé la semaine, évidemment, à scruter TikTok, Facebook et autres. Et cette semaine, Jessica, c'est un sportif pas comme les autres qui enflamme les réseaux. On se souvient de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Ou encore d'Emmanuel Macron en France, eh bien Ibrahim Traoré, le président de la transition au Burkina Faso, est lui aussi devenu footballeur le temps d'un match de gala.
Près de 15 000 mentions j'aime, des milliers de partages et au moins autant de commentaires. Mardi, la présidence du Burkina Faso a publié sur sa page Facebook les images de cette rencontre. Sur le terrain, deux équipes prestigieuses. D'un côté, des anciennes gloires du football africain comme le Burkinabé Mohamed Kaboré, le Nigérian Djedje Okocha et le Togolais Emmanuel Adebayor. Et de l'autre, Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso, capitaine d'une équipe composée de ses proches collaborateurs. Mmh. Et contre toute attente, les anciens internationaux se sont inclinés. Score final, 8-2 pour la formation du chef de l'État, et oui, qui portait, lui, le numéro 10, hein, et a signé, tenez-vous bien, un triplé.
Trois buts
pour Ibrahim Traoré. Forcément, un match et un résultat très symbolique hein, pour le gouvernement de transition. Le capitaine Traoré a d'ailleurs déclaré, c'est un message à tous les Africains et au reste du monde que ce que nous faisons est bien perçu et que le Burkina est bien fréquentable, une manière donc pour le pouvoir de soigner son image hein, et d'éloigner les critiques.
Ouais, une tentative en tout cas qui n'est pas forcément concluante, il suffit de jeter un coup d'œil sur les réactions dans les réseaux sociaux.
Alors, on le sait bien, hein, il ne suffit pas d'enfiler un maillot et un short de football pour faire l'unanimité sur la toile. Je vous partage quelques commentaires. Alors que l'État burkinabé a perdu plus de 30% de son territoire, le président Ibrahim Traoré trouve du temps pour s'amuser. Il s'est naturellement autoproclamé capitaine de son équipe et a imposé que son nom soit imprimé sur le brassard. Un autre internaute qui semble indigné. Pauvre peuple du Burkina Faso, jamais on ne verra Zelensky en train de jouer au foot, tandis que ses hommes se font tuer au front. Et celui-ci, le capitaine putschiste, est bien meilleur footballeur que président. Il a lamentablement échoué à ramener la paix au Faso. Et sur X, plusieurs comptes anglophones hein, aux millions d'abonnés ont aussi partagé ce match de foot. Résultat, des centaines de milliers de vues et un buzz qui dépasse largement les frontières.
Alors, il faut dire qu'il n'y a pas que des réactions négatives. Hein. Ce match a quand même suscité beaucoup d'enthousiasme. certains internautes sont ravis de voir le président de la transition sous un autre jour.
Eh oui, la preuve avec ses commentaires. Vive la résilience par le sport. Merci à toutes ces anciennes gloires du foot pour leur présence sur le terrain. La patrie ou la mort nous vaincront. Et je termine avec cet internaute plein d'espoir. Le Burkina Faso n'a pas encore d'étoiles sur son maillot, mais il a un président qui peut jouer au ballon avec des légendes et marquer un triplé. Et on verra, hein, Juan, si les étalons du Burkina obtiendront cette première étoile à la CAN 2025 dans quelques mois.
Oui, on verra ça. Et d'ici là, peut-être que le capitaine Traoré endossera de nouveau un maillot de football. Visiblement, il aime les matchs de gala, puisqu'on l'avait déjà vu se prêter au jeu en juillet dernier. Merci, Jessica Taïeb.
Merci.
Un œil sur les réseaux, à réécouter sur l'application RFI Pure Radio et en images sur la chaîne WhatsApp RFI Appel sur la